Si je vous parle d'un homme petit, donc je ne vous parle pas de Canda. Si je vous parle d'un homme petit dans la Bible, à qui pouvez-vous penser? Ah non, 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 pas ceux qui étaient là tout à l'heure. Il y en a deux sur le devant, ils font double culte. Est-ce que vous connaissez un homme petit? Ça vous donne déjà une idée? Bon, les adultes, ils sont paumés. Si je vous dis un homme petit qui fait quoi? Qui monte, non pas au paradis, qui monte sur un arbre. Ah! En plus, il a un nom bizarre. Qui commence par un Z, ce n'est pas Zorro, c'est plus fort, Zachée. Vous connaissez Zachée? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Zachée? Qui connaît l'histoire de Zachée là? Qui n'a jamais entendu parler de Zachée? Vous avez jamais entendu? Eh bien alors on va raconter aujourd'hui l'histoire de Zachée. Quand est-ce qu'elle se passe l'histoire de Zachée? Après la naissance de Jésus, tu es vraiment dans le timing. Maintenant, un peu plus dur pour les adultes. Dans quel chapitre de l'évangile de Luc? Ah. Je vais vous parler aujourd'hui de la visite de Jésus à Jéricho. Connaissant la ville de Jéricho, vous savez ce qui s'est passé un jour à Jéricho? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber les murailles de la ville de Jéricho. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Là, je vous parle de Jéricho à l'époque de Jésus. Et à l'époque de Jésus, la ville de Jéricho, c'était une ville où on aimait vivre. On l'appelait la ville des palmiers. C'est une ville où il y avait de nombreux jardins. Et c'était une ville aussi où il y avait de nombreux commerçants qui y habitaient. Des gens très riches, qui avaient fait construire de magnifiques maisons avec de grands jardins et qui avaient planté partout des arbres. Et tout le monde aimait habiter à Jéricho. Et dans cette ville de Jéricho, l'évangile de Luc nous rapporte ceci, dans Luc chapitre 18 et Luc chapitre 19, il y avait parmi tous les autres deux hommes qui vivaient, et ces hommes, deux hommes avaient des points communs mais aussi des différences, et dans les points communs que ces deux hommes avaient, ils étaient tous les deux riches, très riches. Et tous les deux étaient des chefs. C'est bien ça quand même, hein. D'être riche, d'être chef, bah dis donc, ils en avaient hein, des choses. Peut-être se connaissaient-ils, parce que la ville n'était quand même pas immense et ces gens devaient quand même se connaître les uns les autres, mais ce qui est certain, c'est que même s'ils se connaissaient, ils ne devaient pas se fréquenter. Parce qu'ils ne vivaient pas du tout dans le même monde et je crois même qu'ils se détestaient les uns les autres. Le premier, nous avons l'habitude de l'appeler le jeune homme riche. Jeune homme parce que dans un des évangiles, me semble-t-il, dans Matthieu, à un moment, Matthieu dit qu'il était jeune. Mais c'est le seul endroit où il dit qu'il était jeune. En tout cas, on a pris l'habitude de l'appeler comme ça, le jeune homme riche. C'était aussi un chef. On pense même que c'était un chef religieux. C'était donc quelqu'un de très connu, de très respecté, d'admiré. Tout le monde aurait voulu connaître cet homme. Et puis, il y avait l'autre. Comment il s'appelle l'autre chef? Celui qui est petit. Zachée. Et Zachée, lui, était un chef, mais ce n'était pas un chef des religieux, lui, c'était un chef de ces gens qu'on appelait des publicains. C'est quoi ça, un publicain? C'était des gens, pardonnez-moi le raccourci, ça va simplifier les choses, c'était des gens qui, en quelque sorte, prenaient l'argent des autres, étaient censés l'amener au roi, mais en fait, en garder une grosse partie dans leur poche. Et à cause de ça, évidemment, on les traitait de menteurs, de voleurs. Ils m'ont pris mon argent. Ah ben oui, il a une belle maison, mais c'est moi qui lui ai payé. Et ils étaient détestés. Et alors, le chef des publicains était encore plus détesté que tous les autres. Et certainement, dans la ville de Jéricho, il n'y avait personne de plus détesté que Zachée. Et il devait en avoir des ennemis, Zachée, dans cette ville. Voilà donc deux hommes riches, deux chefs. Et tous les deux sont certainement des gens très bien informés. Et ils ont appris, d'ailleurs comme tout le monde, qu'un certain Jésus arriverait bientôt à Jéricho. Et on ne parlait que de lui. Tout le monde parlait de lui. Depuis qu'en Galilée, il avait commencé de prêcher la repentance, les foules se pressaient. Des gens de tous les villages venaient le voir. On amenait les enfants. Et partout où Jésus passait, on espérait toucher son vêtement pour être guéri. Jésus faisait des miracles. Les sourds entendaient, les boiteux marchaient, et même, il avait ressuscité des morts. Alors partout, c'était un immense intérêt. Tout le monde voulait voir qui était Jésus. Et sachez, lui d'ailleurs aussi était très curieux de voir qui est ce bonhomme dont on parle. Peut-être a-t-il oublié de remplir sa liasse fiscale, il faudra quand même voir ce qui se passe. Mais l'autre homme, le jeune homme, lui aussi voulait voir Jésus, mais il ne voulait pas simplement le voir par curiosité, pour voir mettre enfin un visage sur lui dont on ne faisait que parler. Il avait entendu ce qu'on disait de Jésus, ce que faisait Jésus, et il pensait que ce Jésus pourrait l'aider. Alors il voulait vraiment l'approcher pour lui parler. Il pourrait l'aider parce qu'il avait une question à lui poser. En fait, ce n'était pas simplement une question, c'était la question, c'était sa question. Une question qui était constamment en lui, qui devait certainement le triturer les méninges, et il n'arrivait pas à trouver la réponse. Cette question, quelle question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est une bonne question. Hein? Cet homme était soucieux de la vie éternelle. Malgré toutes les richesses qu'il avait, il s'interrogeait donc, comment avoir la vie éternelle? Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent qui nous permettent donc d'aller au ciel. Et lui avait plein d'argent, il avait plein de maisons peut-être. Mais pourtant dans son cœur il y avait un grand vide, une grande inquiétude, une peur. Je n'ai pas la vie éternelle. Il avait certainement posé la question à plein de gens, puisqu'il connaissait plein de gens, étant un chef. Il avait peut-être rencontré des docteurs de la loi à Jérusalem. Il avait consulté des sacrificateurs, ceux qui servaient dans le temple du Seigneur, en leur posant la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors il avait étudié aussi, depuis son enfance. Il était né certainement dans une famille religieuse, où on aimait la parole, où on pratiquait les commandements. Ses parents, son père, lui avaient montré l'exemple. Et il connaissait tous les commandements. Et il ne se contentait pas de les connaître, il les mettait en pratique. Et depuis sa jeunesse, il avait été un homme fidèle. C'était un homme qui ne volait pas. C'est un homme qui respectait ses parents, il ne mentait pas. Il ne voulait pas prendre ce qui lui appartenait et qui appartenait aux autres. Il n'était certainement pas comme ce Zachée-là, voleur-menteur. Et malgré tout cela, cet homme continuer de se poser cette question. Malgré son application à vivre selon la loi de Dieu, il se posait cette question, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors je comprends donc que ce n'est ni l'or, ni les maisons, ni le fait d'être un chef qui nous permet d'avoir la vie éternelle, et ce n'est même pas le fait de suivre tous les commandements de Dieu qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Si même je mens pas, si même je vole pas, si même je respecte mon papa et ma maman, pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai la vie éternelle. Waouh, mais alors comment faire pour l'avoir? Et c'était vraiment quelque chose qui embêtait cet homme. Alors quand il apprend que Jésus arrive en ville, il se dit, je ne vais pas rater l'occasion. Certainement lui saura me dire quelque chose, lui dont on dit qu'il est un prophète, qu'il parle de la part de Dieu. Zachée resta en ville. Oh, je le verrai quand il arrivera. Mais d'abord, il faut que je finisse encore quelques calculs. Mais lui, le jeune homme riche, ce chef religieux, ne voulut pas attendre, mais il sortit de la ville, sortit de sa maison. Et là, il courut le long du chemin pour aller à la rencontre de Jésus, de toute la foule qui le suivait. Et là, devant tout le monde, devant des gens qui le connaissaient depuis son enfance, qui connaissaient sa famille, il a fait quelque chose d'inconcevable. Il se mit à genoux. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Peux-tu me répondre? C'est cette question qu'il adressa à Jésus devant tout le monde. C'est tellement important dans son cœur, tellement pesant dans son cœur, qu'il oublia que tout le monde le regardait, que tout le monde allait pouvoir le juger. Non, il fallait qu'il les pose cette question à Jésus. Jésus, qu'as-tu à me dire, toi? Et Jésus le regarda et lui dit, écoute, à te voir, tu es un homme riche, tu es un chef, un religieux, tu connais la loi, tu connais les commandements, n'est-ce pas? Tu connais les commandements, oui. Mais oui, je connais les commandements. Depuis mon enfance, on m'a enseigné les commandements. Depuis mon enfance, je pratique les commandements. Mais, Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est tout ce que tu as à me dire. Alors, Jésus le regarda. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire ce mot. Jésus le regarda. Quand les yeux de Dieu, du Fils de Dieu, viennent sur la vie d'un homme. Nous, quand on regarde les gens, souvent notre regard est superficiel, on s'arrête à ce qu'on voit. D'autres qui sont un peu plus perspicaces arrivent à déceler certains des comportements intérieurs parce qu'ils ont appris cela. Mais Jésus, ses yeux, c'est comme un scanner. Vous savez ce que c'est un scanner ? Quand il y a des gens malades, on les amène à l'hôpital, hein ? Et puis c'est encore mieux qu'une radio, on va les mettre dans une espèce de tunnel, sur un lit. Ils rentrent dans le tunnel et là, eh bien, ils passent des choses et après sur les écrans, les docteurs ils voient apparaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ils voient apparaître le cœur, ils voient apparaître les poumons, les reins, le foie, tous les vaisseaux sanguins, tous les os, les muscles, enfin ils voient tout, même à l'intérieur, ils voient le cerveau. Et Jésus, lui, c'est encore mieux qu'un scanner, parce que le scanner, lui, ne peut pas lire ce qu'il y a dans les pensées, ne peut pas lire ce qu'il y a dans le cœur. Mais Jésus, quand il voit jusqu'au plus profond de l'homme. Il voit tout. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous n'avons pas dit, etc., etc., etc. Il voit même tout ce qu'on ne voudrait pas faire voir aux autres. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas montrer aux autres ? Oh, des fois, il y a des choses qu'on cache, hein. Et surtout, on les cache profondément. Oh, mais on ne peut rien cacher à Jésus. On ne peut rien cacher aux yeux de Dieu. Vous auriez peur que Jésus vous regarde comme ça ? Mais l'évangéliste nous dit ceci. Quand Jésus le regarda, il l'aima. Quand Jésus l'a regardé, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé. Jésus a vu les pensées de cet homme, il a vu que cet homme était certainement un homme droit, un homme qui aimait Dieu. Il a vu son désir de trouver la paix avec Dieu, de cette question sincère dans sa vie, oui, importante, la vie éternelle, il a vu tout ça. Mais je vais vous dire, à mon avis, Jésus ne l'a pas aimé simplement qu'à cause de ça. Jésus n'aime pas les hommes parce qu'ils sont bons. Il n'aime pas les hommes parce qu'ils pratiquent les commandements. Jésus aime les hommes tout simplement. Il l'a regardé, il aurait pu le condamner, mais il l'a aimé. Et quand Dieu nous regarde, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est parce qu'il nous aime. Pourtant, il y a plein de choses qu'il voit en nous qui ne sont pas belles, hein. Mais malgré tout, il nous aime. Et c'est important que l'évangéliste ait écrit ça. Il le regarda, il l'aima. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ce qui vient ensuite est une parole difficile. Parce que Jésus va lui dire la vérité. Il l'aime et il va lui dire la vérité. Vous savez, des fois, on aime trop les gens, alors on ne leur dit pas la vérité. Ça, c'est une façon de faire, parce qu'on veut les épargner. Et d'autres fois, on veut dire la vérité aux gens sans les aimer, et on leur fait plus de mal qu'autre chose. Mais Jésus, lui, il regarde, il voit les choses telles qu'elles sont, il nous aime, et il nous dit la vérité dans l'amour. Ça, c'est notre Seigneur. Et il nous dit les choses, et il lui a dit les choses. Qu'est-ce qu'il avait vu ? Qu'est-ce qu'il avait vu dans le cœur de cet homme ? Il avait vu que, oui, cet homme aspirait à la vie éternelle. Il voulait être en paix avec Dieu. Il y avait un vide. Malgré tout ce qu'il avait, il avait un vide. Mais le problème, c'est que cet homme était comme bloqué dans sa vie. Il y avait quelque chose qui prenait trop de place en lui. C'était quoi le problème dans la vie de cet homme ? C'était ses richesses. Plus exactement, l'amour de ses richesses. L'apôtre Paul dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas le fait d'avoir des richesses, mais c'est le fait d'aimer ses richesses. Et cet homme, finalement, aimait plus ses richesses que ce qu'il était prêt à aimer Dieu. Le véritable Dieu de sa vie, c'était sa fortune. Mais vous savez, il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin d'avoir un gros compte en banque caché en Suisse pour avoir des richesses qui sont comme des idoles dans leur vie. Des fois, on est attaché à des choses très particulières qui prennent la place de Dieu. On veut la vie éternelle, mais oui, mais ça, je veux le garder. Alors, le Seigneur lui dit ceci. Mon ami, il te manque une chose. Ah, une chose ? Ah ben c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Moi, je ne sais pas si le Seigneur, en me voyant, m'aurait dit « il te manque une chose ». J'aurais été content quand même. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, je m'attendais peut-être à dire « il ne t'en manque pas une, mais il t'en manque peut-être une bonne dizaine, une bonne vingtaine, centaine. Lui, je trouve, c'est bien. Il n'en manquait qu'une. Bah, dis donc, quel homme ! J'aimerais bien rencontrer un homme à qui lui manque juste une chose pour aller dans le ciel. Je ne sais pas s'ils sont fréquents, ceux-là. Stop, arrêtons-nous. Il manquera toujours une chose, même aux meilleurs des hommes. Même aux hommes les plus religieux, aux hommes les plus généreux, aux hommes les plus droits, les plus justes, il manquera toujours une chose. Parce que s'il était possible à un homme par ses efforts, quels que soient ses efforts, de pouvoir accéder par lui-même à la vie éternelle, pourquoi est-ce que Jésus serait venu sur la terre ? Et quelle que soit la qualité de l'homme, il manquera toujours une chose. Il te manque une chose. Et ce que Jésus va lui dire ensuite, il aurait préféré qu'il lui dise « il t'en manque 100 ». Il aurait préféré qu'il lui dise « eh bien écoute, ok, ce que tu as fait c'est pas mal, mais il faudrait encore rajouter 100 commandements ». Il faudrait rajouter tant de prières. Il faudrait que maintenant que tu fasses ça, que tu fasses ça. Si Jésus lui avait parlé comme ça, il aurait dit, ok, de toute façon, j'ai déjà appris 600 commandements, alors 100 de plus, c'est pas ça qui va me déranger. Et si je suis sûr au bout de ces 100 d'avoir la vie éternelle, dis-le-moi. Ce que Jésus lui a dit, c'est pas une question de commandement. Pas qu'il va lui en donner un. On va le voir, j'ai cette pensée. Il va lui donner un commandement pour lui faire comprendre que ce n'est pas par le commandement qu'on peut être sauvé. Mais enfin, j'y reviendrai parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pourtant très important. Mais ce qu'il va lui dire, c'est comme s'il lui avait dit finalement, va boire la mer morte, cul sec. Il va lui dire, vends tout ce que tu as, tout, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, viens et suis-moi. Quel choc. Quoi ? Et là, il est resté sans voix. Il a dû se relever. Il venait de prendre un coup de massue sur la tête. Et le texte nous dit finalement qu'il s'en alla. Il était tout triste. Oh, il avait bien compris ce que Jésus lui disait. Waouh ! Et Seigneur, t'essayes pas de le rattraper ? T'es un peu dur, là. Est-ce qu'on peut pas... Attends, pas tout, mais on peut pas dire 10-20%. Seigneur, écoute, c'est quand même, il lui manque juste une chose. Tu peux pas faire un effort. Jésus n'a fait aucun effort, il n'a pas essayé de le rattraper. Il lui a dit la vérité, il est parti, il n'a pas essayé de le rattraper. Et les disciples qui sont autour de lui disent... Oh là là. Le Seigneur se tourne vers eux et dit, mais qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile à un chameau qui a combien de bosses ? 3 ? Non, 2. Parce que s'il avait une bosse, ça ne serait pas un chameau. Ça serait quoi ? Un dromadaire. C'est quand même plus facile de faire passer un dromadaire qui a une bosse qu'un chameau qui a 2 bosses. De faire passer un chameau par quoi ? Par le trou d'une aiguille. Vous avez déjà essayé de faire passer un fil ? On le mouille bien. On vise. Déjà, c'est pas facile. Mais alors un chameau ? Plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Oh ben alors, les disciples, qui peut être sauvé alors ? Et c'est là que Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est Je veux qu'on le dise tous ensemble fort, ce qui est possible est possible à Dieu, pas à moi, à Dieu et à Dieu seul. Et c'est sous cette discussion que Jésus et les disciples sont arrivés à Jéricho. Alors, là, la foule s'était rassemblée. Oui, Jésus arrive, Jésus arrive. Et les familles étaient venues. Vite, amenons les enfants. Vite, amenons la grand-mère. Sortons de son lit. Vite, vite, peut-être le Seigneur la guérira. Elle n'est pas trop vieille pour ça quand même. Et tout le monde était là. Et on se pressait. Vite, 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 Jésus arrive. Et puis, il y en a un qui est encore à son bureau. Oh, il n'a pas vu l'heure passer. Oh, Jésus arrive. Oh, j'ai pas fini mon calcul. Oh, bon, je vais quand même aller voir qui il est. C'est notre ami Zachée. Et Zachée arrive là aussi sur la place. Le problème, c'est qu'il arrive après tout le monde. Il était en retard, oui, il était pris dans son travail. Et la foule est là, devant la rue. Comment je vais faire pour passer? Moi, je vais essayer de... C'est fou. Je vais passer. Et puis les autres, c'est Zachée. Tu vas pas passer. C'est vous, serrez, c'est Zachée. Comment faire? Jésus va arriver, je voudrais au moins le voir. Personne ne veut me laisser passer. Problème, quel est le problème? Il est petit, il y a plein de candidats devant lui. Comment va-t-il faire? Là, il arrive. Voilà. Un sycomore, un arbre. Zachée avait trouvé un arbre sur lequel il pouvait se positionner comme il faut, juste au-dessus de la rue. Personne pour l'empêcher de voir, et il verrait Jésus arriver. Ah tiens, justement, le voilà. Comment, à quoi il ressemble ce Jésus? Oh, il est bien jeune. Oh, bien jeune, oui. Tiens, c'est une drôle de tête pour un prophète quand même. Tous ces gens qui sont là, mais il y a quand même quelque chose. Hein, quel drôle de bonhomme quand même ce Jésus. Il arrive, il s'arrête. Jésus s'est arrêté juste sous la branche. Il s'arrête sous la branche. Zachée, ah, Zachée, et tous les autres autour. Oh, c'est Zachée. Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre, Zachée? Regardez, c'est Zachée, le collecteur d'impôts, celui qui nous a vu, qui a vidé nos comptes en banque. Il est là dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre? Et Zachée, il se tient bien. Ah, tout le monde me voit, là. Quelle situation un peu gênante, quand même, pour un homme comme Zachée, d'être vu à la vue de tout le monde. Zachée, lui dit Jésus. Il me connaît par mon nom. Mais d'où me connaît-il? Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, à moi, Elissa, venir dans ma maison, venir manger avec moi, mais il n'y a personne qui veut venir dans ma maison d'habitude. On me déteste. J'ai jamais vu quelqu'un vouloir venir dans ma maison. Au contraire, on me fuit. Et puis généralement, quand c'est quelqu'un d'important comme Jésus, c'est pas chez moi qu'il vient de manger, c'est chez l'autre, là, chez le jeune homme riche, le chef, lui. Et Jésus, c'est chez lui qu'il devrait aller manger. Chez moi, pas de problème, je descends de mon arbre. Et tous les autres autour de Jésus se disent, oh, quand même, allez manger chez Zachée, mais ça se fait pas. C'est pourquoi lui qui nous a volé, qui menteur, le pire des hommes dans cette ville, il va manger chez lui, mais enfin. Et Zachée vient vers Jésus, et là il va faire une déclaration étonnante, plein de joie. Il va faire spontanément ce que Jésus avait commandé de faire au jeune homme riche, mais que le jeune homme riche n'a pas pu faire. Et il en était reparti avec tristesse, mais Zachée va le faire spontanément avec joie. Pour vous montrer que le jeune homme riche avait voulu un commandement, Jésus lui avait donné un commandement. Tu veux un commandement, plus je t'en donne un. Mais ce n'est pas le commandement qui sauve. Ce qui sauve, c'est la puissance de Dieu. Parce que si cet homme avait vendu tous ses biens, ça voulait dire encore qu'en vendant tous ses biens, en les distribuant aux pauvres, même si ça nous paraît un truc complètement extraordinaire. S'il l'avait fait, donc par lui-même, il aurait pu rentrer dans la vie éternelle. Non, mais non, Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas le faire. Et comment est-ce que Zachée a-t-il pu le faire? J'y reviens dans quelques instants. Et tous les gens qui sont autour de lui sont stupéfaits. Et Zachée qui dit, avec joie, je donne la moitié de ma fortune aux pauvres. Et si j'ai fait quelqu'un du tort, je lui rends au quadruple. Moi. Et l'autre, et moi aussi, tu te rappelles combien tu m'as pris? Oui, merveilleux jour, extraordinaire, Zachée va nous donner son argent. Et Zachée, je crois que Zachée était un homme intelligent. Zachée, ce jour-là, dans son arbre, n'imaginait pas qu'il allait être percuté par la parole de Jésus. Parce que premièrement, ce qui a sauvé, transformé, changé à jamais la vie de Zachée, c'est Jésus qui vient à lui. C'est ce que nous montre ce texte. Le jeune homme riche était allé vers Jésus avec sa démarche religieuse, mais pour autant on est surpris, pourtant il se met à genoux, wow, quel signe de piété! Mais ce n'est pas la piété, ce n'est pas la religion qui sauve un homme, c'est la grâce de Dieu. Et on est toujours surpris par ça. Mais on le sait à la fin du texte, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis venu chercher, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et ce qui va changer, premièrement, la vie de Zachée, c'est quand Jésus vient à lui. C'est Dieu qui est venu à nous, c'est pas nous qui sommes venus à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Et c'est parce que Jésus est allé à la rencontre de Zachée que Jésus a parlé à Zachée. Et quand Jésus parle à un homme, ça vous transperce une vie. Ça vous renverse une vie. Ça vous perturbe tout. Tout est remis en question. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Zachée, heureusement qu'il était bien accroché à son arbre parce qu'il aurait pu tomber en un instant, mais vraiment dans son être intérieur, il a pris cette parole de pain fouet et il a compris ce jour-là que Jésus ne lui disait pas simplement « je vais aller manger un repas chez toi ». Il a compris qu'il y avait quelque chose de plus profond. La maison dont il était question, ce n'était pas simplement sa belle maison, c'était son cœur. Ce que Jésus voulait, c'était venir dans son cœur, que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vienne dans la vie de Zachée. Et Zachée a dit oui. En descendant de son arbre, il a obéi. Il a dit oui. Moi, Zachée, chef des publicains, voleur, menteur, tout ce que vous voulez, je descends de mon arbre et je dis oui à Jésus. Et parce qu'il a dit oui, la puissance de Dieu est venue en lui. Et c'est cette puissance-là qui lui a donné la force, le courage, la foi de dire spontanément, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends du quadruple. Je ne sais pas s'il lui restait grand-chose à la fin. Ce que l'homme riche n'avait pas pu faire, Zachée le pouvait, non pas par ses forces, mais par la grâce de Jésus-Christ. Car le salut ne vient pas de nos efforts, mais vient de la volonté de notre Dieu. Et Zachée a répondu à l'appel de Jésus. Il a dit « Oui, Jésus, oui, viens dans mon cœur. Moi, je ne suis pas capable, je suis un menteur, un voleur. Mais je te reçois. » Il a fait ce que le jeune homme riche n'a pas fait. Le jeune homme riche voulait vivre par des commandements, par des efforts. Jésus lui a donné un commandement. Et Jésus, je l'ai dit, savait très bien que ce commandement, il ne pourrait pas le faire. Qui pourrait faire une telle chose? Jésus voulait lui montrer qu'il nous manque toujours une chose. Et la chose qui nous manque est au-delà de nos capacités. Nous ne pourrons jamais atteindre la vie éternelle par nous-mêmes. Qui parmi nous pourrait arriver à passer par le chat d'une aiguille? Je crois que ce jour-là, ce que Jésus attendait de ce jeune homme riche, c'est qu'il lui dise « Mais je ne peux pas !» Ce que tu me demandes, c'est trop dur. Comme un papa qui amène Jésus à Jésus son fils, va lui dire, mais viens à mon secours. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce que Jésus attendait de ce jeune homme, c'est qu'il lui dise, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Viens m'aider, je ne peux pas. Mais ça, il ne l'a pas voulu. Il ne lui a pas dit ça. parce qu'il était trop attaché à ses richesses. Il avait beau se mettre à genoux, il avait beau faire tous les commandements, il avait beau être un homme recommandable, mais dans son cœur, le premier, ce n'était pas Dieu, c'était l'argent. Et il n'a pas voulu demander le secours au Seigneur. Je crois que s'il avait tendu sa main, le Seigneur l'aurait aidé, comme il l'a fait pour Zachée, parce qu'il serait rentré dans sa vie. Vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu? Vous voulez rentrer dans la vie éternelle? Ouh, mais c'est difficile. Tout petit comme le chat d'une aiguille. Le seul moyen, c'est de faire rentrer Jésus dans votre vie. En faisant Jésus rentrer dans notre vie, lui nous fera rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui aurait donc pensé que parmi ces deux hommes, ces deux chefs, ces deux hommes riches, l'un recommandable, l'autre détestable, ce soit Zachée qui ce jour-là reçoive le salut? Humainement, nous aurions dit c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Et c'est là cette belle histoire. Pour nous dire que chacun d'entre nous, oh, nous ne sommes peut-être pas des Zachée, mais nous avons tous péché. Nous ne sommes tous peut-être pas, heureusement, des voleurs, des menteurs, mais nous avons péché contre la loi de Dieu. Le jeune homme riche, lui, n'avait jamais péché. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. J'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pratiqué cela. Et pourtant, il a manqué l'essentiel dans la vie de cet homme. Il a manqué la foi en Jésus. Mais le voleur, le menteur, au moment où Jésus lui parle, a cru et il a été sauvé. Alors, je vais te dire, mon problème, ce n'est pas de savoir si tu ne mens pas, si tu ne voles pas, si tu respectes tes parents. Mon problème, ce n'est pas de savoir si au contraire tu voles, tu mens, tu fais ceci ou cela. La question, c'est de savoir, est-ce que tu veux laisser rentrer Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux que Jésus prenne la première place dans ta vie? Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent laisser rentrer Jésus dans leur cœur? Lui laisser tout leur cœur. Mais je vais vous dire aussi, histoire d'enfants, histoire pour les enfants, telle que je l'ai présentée, c'est vrai. Mais n'oublions pas que ces deux hommes étaient deux adultes. Ce Zachée, il n'a pas fallu beaucoup de démonstrations, pas de démonstrations théologiques, etc., etc. Il a fallu une rencontre, un instant, une fraction de seconde, et la vie de cet homme a basculé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut argumenter pour arriver à prouver à un homme pourquoi il faudrait qu'il se convertisse. Mais je veux vous dire, la conversion, l'engagement, rentrer dans la vie éternelle, ce n'est pas en apprenant, parce que plus on apprend, plus ce sera difficile de passer par le trou de l'aiguille. Mais c'est tout simplement avoir la foi d'un enfant, comme ces enfants devant nous. Zachée, ce jour-là, a eu la foi d'un enfant. Il a dit, Seigneur, écoute, ok, je descends de mon arbre, viens dans ma vie. Et Jésus a transformé sa vie. Et toi, peut-être aujourd'hui, tu es là au milieu de nous, tu es peut-être monté sur ton arbre, tu es venu là dans l'assemblée pour voir ce qui se passait. De droite, de gauche, qu'est-ce qu'ils racontent, comment ils sont, comment ils chantent, comment ceci, comment cela. Et maintenant, pas moi, mais Dieu te dit à toi, descends de ton arbre. Parce qu'il faut aujourd'hui que je rentre dans ta maison. Et mais moi, Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis juste venu pour voir. Moi, j'ai ma vie. Mais tu sais, ce n'est pas ma parole qui change tout, c'est la parole de Jésus. Et si Dieu vient à ta rencontre maintenant, alors saisis cette parole, parce qu'elle va transformer ta vie. Elle va te donner l'accès à la vie éternelle, mais elle va aussi t'apporter la véritable paix du cœur. Et je suis convaincu que notre Zachée était beaucoup plus heureux, les poches vides, qu'autrefois, dans sa belle maison et ses beaux jardins, parce que le salut était rentré dans sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un entend la voix du Seigneur qui lui dit « Je veux rentrer dans ta vie. Viens, je veux rentrer dans ta maison aujourd'hui. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole et qui veut dire au Seigneur « Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Et s'il y a des choses à changer, ben écoute, tu vas t'en occuper. Mais je voudrais, Seigneur, que tu prennes soin de moi, que tu prennes soin des miens, que tu prennes soin, Seigneur, de ma famille, que tu prennes soin de mes enfants. parce que je voudrais, Seigneur, que le salut, c'est vrai, rentre dans toute ma maison, qu'il éclaire toute ma maison, qu'il bénisse toute ma maison. Je crois que ce n'est pas simplement que Zachée qui a été béni ce jour-là, mais c'est Madame Zachée, et c'est Mademoiselle Zachée, et c'est Petit Zachée aussi. Dans toute cette maison, le salut est rentré. Et ce matin, le Seigneur te dit, je veux rentrer dans ta maison aussi, auprès des tiens. À l'écoute de cette simple histoire, de ce simple message, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je veux descendre de mon arbre aujourd'hui, et je veux que tu rentres dans ma vie, dans mon cœur. Alléluia, y a-t-il... On va fermer nos yeux. On va faire comme ça avec les enfants, ils ont l'habitude, on va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes, et puis on va lever la main. Ceux qui veulent dire, Seigneur, rentre dans ma vie, je voudrais simplement les inviter à lever leurs mains. Voilà, plusieurs qui le font. Gloire à Dieu. Et les enfants, j'en vois plusieurs qui le font. Le Seigneur vous aime. Il aime nos enfants. Alors recevez, recevez la bénédiction de Jésus maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, oh, je me réjouis de ce que tu as aimé le jeune homme riche et je me réjouis, Seigneur, de ce que tu as aimé Zachée pareillement. Tu ne fais pas de favoritisme, de distinction entre les uns, entre les autres, entre ceux qui sont religieux et puis ceux qui sont méchants, etc. Non, Seigneur, tu nous aimes tous. Et je me réjouis de ce que ce jour-là, le salut est entré dans la maison de Zachée. Seigneur, je ne dis pas que nous sommes meilleurs que Zachée, nous ne sommes pas meilleurs que Zachée. Et si tu as aimé Zachée, si tu as sauvé Zachée, alors c'est que tu veux aussi nous sauver. Seigneur, nous n'avons rien. Nous n'avons rien à prétendre. Nous sommes tels que nous sommes devant toi. Jésus, change nos vies. Afin que tu nous donnes la puissance de pouvoir passer dans le trou de l'aiguille. Seigneur mon Dieu, je suis chargé, tu vois, plus qu'un chameau à deux bosses, Seigneur, je suis chargé de tout ce qui encombre ma vie. Et tout ça, ça ne permettra pas de passer par le trou. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, que me débarrasser de tout ça. Comme Zachée s'est débarrassé de toutes ces bosses qu'il portait afin de passer par le trou de l'aiguille. Seigneur mon Dieu, libère-nous. Libère-nous du péché. Libère-nous du mensonge. Libère-nous, Seigneur, de la méchanceté. Libère-nous, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui pèse sur nos vies, qui sont autant de bosses que nous portons afin que nous puissions passer par le trou. Et ce matin, Seigneur, je te prie de rentrer dans la vie de ceux qui t'invoquent. Je te prie d'abord pour nos enfants. Bénis-les. Seigneur, tu honores la foi simple des enfants. Tu la mets en exemple. Et moi, je crois, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui, tu es celui qui inscrit le nom de nos enfants dans ton livre de vie. Je crois qu'il y a une place privilégiée dans les cieux pour eux. Et notre part, Seigneur, c'est de veiller sur le salut que tu as déposé dans leur cœur, afin qu'ils produisent du fruit dans les temps à venir. Bénis-les, Seigneur. Et puis tu connais tous ceux qui, au milieu de nous, mon Dieu, viennent ce matin et à l'écoute de cette simple histoire, vont dire, Seigneur, comme ce Zachée, je veux que tu viennes dans ma vie. Moi aussi, ma vie est détestable, mais Seigneur, je voudrais que tu changes tout. Seigneur, tu es venu pour me sauver ce matin. Alors viens dans ma vie. Merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Merci pour la simplicité du salut. Seigneur, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen.